Bordeaux que pour Marseille. François Vanzan est directeur scientifique de l'ADEME. Vous remarquerez d'ailleurs que plusieurs conférenciers viennent de cet organisme. Je vais parler de lui maintenant et de son parcours. Et sa conférence est consacrée à l'écologie et au mode de vie. Il est ingénieur de l'École supérieure d'électricité, docteur en sciences économiques. De 1975 à 1977, il a été chercheur au Centre international de recherche environnement et développement, dont sa vocation ne date pas d'hier. De 1977 à 1981, il a été ingénieur de la direction du programme énergie solaire du CNRS. De 1981 à 1982, secrétaire à la mission utilisation rationnelle de l'énergie au ministère chargé de la recherche. De 83 à 91, chargé de mission à la direction scientifique, puis chef du service économie et programmation de la recherche de l'Agence française sur la maîtrise de l'énergie, directeur de la prospective de 92 à 97. Depuis 2003, il est directeur scientifique de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, c'est ça que veut dire ADEME, rapporteur de l'instance d'évaluation de la politique de maîtrise de l'énergie, et il a publié de nombreux rapports et sur la prospective de l'énergie et l'environnement. Alors, conformément à nos usages, François Vanzan va vous faire son intervention durant 50 minutes environ, et puis sur l'écologie et le mode de vie, et puis ensuite, sous la bienveillante, avec la bienveillante modération de Daniel Fondloy, eh bien, il répondra à vos questions. Voilà. Je vous remercie tous et je remercie spécialement François Vanzan.
Alors, on n'est pas en volume, mais et en qualité et en disponibilité pour l'ensemble de l'humanité. Un autre enjeu très important, c'est ce qu'on appelle la biodiversité, la perte de biodiversité, qui est accentuée d'ailleurs dans le changement climatique. Et puis des problématiques qui sont peut-être moins volontaires, qu'on arrive plus facilement, qu'on arrive plus facilement à surmonter, mais qui sont encore très prégnantes, comme les pollutions de l'air, les pollutions de l'eau, des sols, et évidemment leur impact sur la santé et la production de déchets qui s'accumulent et qui continuent à augmenter. Et puis parallèlement à ces enjeux environnementaux, on a des enjeux sociétaux qui doivent être pris en compte. L'accès aux services essentiels, c'est le cas pour plusieurs milliards d'habitants sur Terre qui n'ont pas accès à l'eau, à l'énergie, à la santé. C'est aussi des points comme l'égalité des chances, le handicap, l'élimination des discriminations. Je les cite, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais simplement pour que vous voyez que c'est un problème complexe, parce que l'accès aux services essentiels, c'est aussi pour produire plus d'énergie. Donc tous ces problèmes environnementaux introduisent de la complexité, il n'y a pas de solution et de réponse unique et simple. Alors quelques-unes illustrées d'abord, quelques-unes de ces problématiques. Vous avez encore en mémoire l'année 2008 avec les hausses très fortes des prix du pétrole qui traduisent non pas un épuisement immédiat des ressources de pétrole, mais une raréfaction progressive. Alors sur ce graphique, vous avez depuis le début du XXe siècle, depuis 1900, par période de 5 ans, quelles ont été les découvertes, les barres vertes, ce sont les découvertes par période de 5 ans de réserves pétrolières dans le monde. Et puis la courbe en bleu, c'est la production, ce qu'on a exploité et donc consommé pour satisfaire le besoin de pétrole. Donc vous voyez qu'à partir de la production a commencé plus tard dans les années 50, enfin significative et importante dans les années 50, cette consommation continue à croître au cours des ans. Et les découvertes, les nouvelles découvertes, elles ont été importantes, vous voyez, mais elles sont plutôt en train de diminuer. Elles sont en train de diminuer, on découvre moins de choses. Rappelons-nous qu'on n'exploite en moyenne que 30% de ce qu'on découvre. C'est-à-dire qu'on laisse au fond des gisements pétroliers 70% de ce qui a été découvert. Il en reste encore beaucoup. Néanmoins, les découvertes s'annulent petit à petit. Et vous voyez par exemple que le petit rectangle jaune que vous avez ici, c'est le plus grand gisement qui a été découvert récemment. Donc c'est des échelles de quantité qui sont relativement faibles par rapport à ce qu'on découvre. Ce qui est en bleu, c'est ce qui est en vert profond, donc ce qui coûte beaucoup plus cher à exploiter. Donc, on est dans une perspective, non pas d'avoir du pétrole, mais un pétrole qui va coûter de plus en plus cher. Ce qui est vrai pour le pétrole, c'est vrai pour le gaz. C'est vrai pour les nombreuses matières premières qui sont moins disponibles. Deuxième enjeu, le changement climatique. Vous en avez entendu parler, bien sûr, vous connaissez plus ou moins. Alors, ce graphique présente l'évolution des températures depuis 1000 ans. Depuis 1000 ans, donc une période longue, mais aussi relativement courte à l'échelle géologique. Vous voyez que jusqu'au début du XXe siècle, en fait, ces températures sont restées relativement stables, avec des évolutions annuelles, bien sûr, mais sont restées relativement stables. Et puis, au XXe siècle, avec la période industrielle, ces températures augmentent. Alors, elles n'augmentent pas énormément, 1 degré. On a gagné 1 degré en un siècle de température globale moyenne. Mais néanmoins, ça commence déjà à produire des effets. Et cette augmentation de température, alors je ne suis pas climatologue, je ne vais pas vous dérouler dans cette conférence, ce n'est pas l'objet pourquoi cette température augmente, mais la grande majorité des scientifiques sont convaincus que c'est l'activité, c'est le rôle de l'homme qui a provoqué ce réchauffement et qui va le provoquer encore plus dans le futur. Alors ça, ce sont les prévisions. Qu'est-ce qui nous attend? Vous voyez, sur ce graphique, c'est encore une fois cette augmentation de température, donc c'est pas une température absolue en ordre donné, c'est de combien ça va augmenter. On a gagné 1 degré, vous voyez que là en 2000, approximativement où nous sommes actuellement, cette courbe noire sur la gauche montre l'évolution au cours du XXe siècle, de 1900 à 2000, une légère augmentation. Et puis ce que prévoient les climatologues, qui sont rassemblés au niveau international, on appelle le GIEC, le groupement intergouvernemental d'évolution du climat, les experts ont des scénarios. Modélise le climat et voit vers où va-t-on. Et dans ces scénarios, à l'horizon de la fin du siècle, 2100, il y a une marge des scénarios, il y a plusieurs scénarios, et la température va augmenter au moins de 2 degrés, en plus de ce qu'on a déjà dur, hein, ce qu'on a constaté, et peut-être si le, les scientifiques nous disent 2 degrés, il va y avoir un bouleversement, des changements, mais c'est acceptable. Au-delà, ça devient très très dangereux pour l'espèce humaine et de savoir où on va. Ce qu'on peut dire actuellement, parce que vous voyez, ça c'était 2000, c'est qu'on est sur une trajectoire d'émission parce que cette incertitude sur le futur, elle est due à l'incertitude sur les modèles. On ne sait pas prévoir le climat, je ne parle pas de la météorologie, on ne sait pas prévoir le climat à un siècle. Ces modèles sont incertains. Et ce qui est aussi inclus dans ces différences en 2100, c'est la trajectoire d'émission. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va, entre maintenant et 2050, entre maintenant et 2080, est-ce qu'on va augmenter beaucoup nos émissions de gaz à effet de serre ou pas? Donc, une partie de cette incertitude sur l'évolution des températures est encore entre nos mains. Même si on est sûr que ça va augmenter d'au moins 2 degrés, la marge d'augmentation est encore du ressort de nos responsabilités. Et les scientifiques nous disent 2 degrés et pas plus, et actuellement les trajectoires d'émission depuis 2000, elle est plus haute que le scénario le plus difficile, le plus inquiétant, qui est la courbe. Donc on est face à un enjeu, et je crois que tous les gouvernements actuellement ont pris conscience de cet enjeu, y compris, vous le savez, le gouvernement américain avec la nouvelle administration Obama. Alors revenons sur ce qu'on peut appeler notre empreinte écologique, c'est-à-dire nos activités quotidiennes, elles ont une empreinte sur les ressources, sur le climat, et on dit, c'est une façon de mesurer cette façon dont nous avons ces empreintes sur les écosystèmes, que si tous les pays avaient le niveau que nous avons, nous les Européens, il faudrait trois planètes, trois fois les ressources, trois fois écosystèmes pour pouvoir satisfaire les besoins climatiques. Il faut savoir que 93% des ressources qui sont exploitées ne sont jamais transformées en produits finis. Ça veut dire que y a du gâchis, il y a une mauvaise exploitation, alors c'est pas du gâchis volontaire, hein, bien sûr, mais on n'est pas très efficace. 99% des matières contenues dans les prix, dans les biens vendus, tout ce que nous achetons, ça vient des déchets après 6 semaines. Et un tiers de l'alimentation achetée par les pays développés n'est pas consommée. C'est ce que rappelle cette publicité britannique que j'ai juste ici, qui dit qu'un tiers de la nourriture que nous achetons au Royaume-Uni est jetée sans être consommée. Et puis 17 000 espèces menacées d'extinction. Enfin, c'est quelques chiffres, quelques éléments pour voir que la croissance, l'activité, nos activités ne sont pas, comme on dit, durables, soutenables à long terme, et il faut donc inventer une nouvelle croissance, de nouveaux modes de vie. Alors, ici, c'est pour illustrer qu'est-ce qu'est la consommation annuelle d'un Européen. Alors, vous voyez beaucoup de choses matérielles, des vêtements, des chaussures, des savons, des produits d'entretien, des emballages, des matériaux de construction, du chauffage, des transports, on consomme des transports, des transports publics, de voitures, mais aussi des transports de marchandises, des produits, etc. Donc, vous voyez, il faut une variété de consommation. Chacun, individuellement, a une empreinte à travers sa consommation, à travers les matières premières qu'il faut extraire, l'élaboration des produits, nos consommations, par exemple pour laver le linge, et puis, in fine, quand ça vient des déchets, il faut les recycler. Alors, ça ne dit pas grand-chose sur l'empreinte environnementale, mais on peut regarder, par exemple, en termes de déchets, qu'est-ce que ça signifie. Et donc, quelles sont nos productions de déchets, d'où viennent les déchets que nous produisons ici au niveau européen. Vous voyez sur les flèches en rouge, c'est les postes de consommation, ce que nous consommons qui a un impact le plus important. En termes de quantité, bien sûr. Alors, par exemple, les fruits, légumes, céréales, tout ce qui est ces matériaux organiques que nous consommons pour notre alimentation, ça fait des déchets. Alors, ce n'est pas des déchets toxiques, hein, ce n'est pas des déchets dangereux, mais néanmoins, c'est des déchets. Donc, du coup, s'il y a des collectes sélectives pour l'organique, on va valoriser si on va la trouver dans les centres de tri d'enfouissement. Les emballages, en bas, vous voyez, 27% de nos déchets viennent des emballages. Encore parce qu'on a toujours beaucoup d'emballages que nous consommons. Même si on essaye de faire ce qu'on appelle la prévention de la source, réduire la quantité d'emballage. Vous allez dire, c'est le problème des producteurs. On y reviendra pas forcément seulement le problème des producteurs, c'est bien sûr qu'ils sont concernés. Les papiers, et puis les produits de jardinage et de déchets. Vous voyez, une quantité que beaucoup d'autres, la viande, dans beaucoup de choses, dans nos consommations quotidiennes, et on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on consomme, on ne regarde pas, on n'est pas forcément tous les jours concerné parce qu'il y a des déchets. Alors, ça c'est un problème, qu'est-ce qui va devenir, comment on va les traiter, c'est un problème économique aussi, puisque ça va avoir une autre façon de regarder ce que nous consommons, quel est l'impact, c'est quel est l'impact justement sur le réchauffement climatique, l'effet de serre. Alors comment on fait? On regarde sur chacun des produits que nous consommons, quelles ont été les émissions de gaz à effet de serre. Alors, je ne peux pas rentrer aujourd'hui dans toute la description, vous la connaissez plus ou moins, mais le CO2, le gaz carbonique, qui vient de la combustion de l'énergie fossile, est le principal gaz à effet de serre avec le méthane. Le méthane, qui est un gaz qui vient de la fermentation ou qui vient du gaz naturel. Ces gaz provoquent le réchauffement et quand on consomme un produit, naturellement il faut le produire, donc il a fallu consommer de l'énergie pour produire. Ou alors il a fallu élever des vaches elles-mêmes qui mettent du méthane ou des rizières qui vont développer du méthane. Donc on a, à travers cette production de biens, à travers les industries, à travers les transports, parce qu'on a utilisé nos voitures pour aller chercher ces produits, on a des émissions de gaz à effet de serre, y compris jusqu'à l'élimination des déchets. Et vous voyez ici que, effectivement, on a une cause importante, l'occupation des bâtiments. Nos bâtiments sont générateurs de gaz à effet de serre, principalement les équipages, on va y revenir, les voitures individuelles, les occupations de bâtiments tertiaires, les gros, on est ici, on a l'éclairage, on n'a pas de chauffage aujourd'hui, forcément, les transports de marchandises pour nos produits sont les postes importants, et puis d'autres, comme l'électroménager, la viande, on la retrouve ici parce que pour faire un steak, notamment, il y a beaucoup de gaz à effet de serre qui sont émis partout. Ça ne veut pas dire qu'on va en consommer, ça veut dire qu'on va être concerné, savoir ce qui se passe. Alors les émissions de CO2 que j'évoquais, donc cette émission de gaz qui vient encore une fois principalement des consommations de pétrole, de gaz, de charbon, par les entreprises et aussi par nous-mêmes quand nous consommons de l'énergie, elle n'est pas la même pour tous les habitants de la planète. Vous avez sur ce graphique les niveaux d'émissions par tête de l'ensemble des régions du monde, avec à gauche le rectangle brun, l'Amérique du Nord, avec des émissions de 19 tonnes équivalent en CO2, pas grand chose, mais c'est à prendre en comparaison avec les autres de sa conscience, 19 tonnes par habitant et par an aux USA. Avec à l'argent du rectangle, c'est la population. Donc vous avez après le Japon, l'Europe. Alors l'Europe, c'est le carré bleu, le foncé. Vous voyez qu'on est autour de 7 tonnes de CO2 par habitant et par an. Et puis après, vous avez d'autres pays. Vous avez la Chine, le grand carré jaune, qui est à 4 tonnes à peu près, qui croît très vite en consommation, parce que la Chine se développe, et l'Inde est beaucoup plus bas, mais qui va croître aussi parce que le pays se développe. Alors, le problème, vous voyez bien, c'est que pour se mettre d'accord sur un objectif, il faut qu'on se mette tous d'accord ensemble, tous les pays, parce que le CO2 qui soit émis à Paris, à Bordeaux ou à Hong Kong, c'est l'impact le même sur les choses. Alors, effectivement, pendant les discussions internationales, vous savez que c'est à Copenhague, à la fin en décembre, qu'il va avoir lieu la grande conférence qui a lieu tous les ans, mais qui cette année doit prendre la suite du protocole de Kyoto. Protocole de Kyoto se termine fin 2012, le protocole des engagements se termine fin 2012, c'est pour préparer la suite, parce qu'il faut quand même savoir ce qu'on va faire dès 2013, que tous les pays du monde vont se retrouver à Copenhague pour prendre des engagements. Alors, discuter avec les Indiens ou les Chinois pour dire vous réduisez vos émissions, ils sont de plus en plus nombreux, leur population et leur mode de vie et leur niveau de vie croît, nous sommes beaucoup plus. Alors, on n'est pas beaucoup, si vous regardez les habitants, ça fait 1,5 milliard sur la partie gauche seulement. Et eux, ils sont 6 milliards. Mais on ne peut pas leur dire, vous allez réduire vos émissions, et puis nous, on va continuer comme ça. Alors, je reviens au niveau français, puis les émissions. Alors, cette fois, par tête, mais un ménage moyen français, peut-être 2,4 pour un ménage. D'où vient notre CO2? Donc vous voyez sur ce camembert, en gros, pour un ménage, ça fait 17 tonnes par an qu'on émet. Avec les traits rouges distinguent trois grandes parties. Le chauffage des logements et les appareils domestiques, c'est-à-dire c'est-à-dire tout ce qu'on fait à la maison, tout ce qu'on consomme, tout ce que nous, comme énergie dans notre maison. Ensuite, vous avez les déplacements des personnes. Nos déplacements à la fois quotidiens, pour aller au travail, pour faire les courses, pour les vacances aussi. Et puis sur la partie gauche, c'est le chauffage dans les lieux de travail, c'est toutes les entreprises qui fabriquent des produits et des services, c'est les transports de marchandises pour amener ces produits. Donc finalement, on va retrouver sur cette partie gauche du camembert, toute cette partie-là, le caddie du ménage. J'ai dit quoi le caddie, c'est-à-dire quand on va faire le course, mais c'est tout ce qu'on achète en biens, en services, et qui, on n'a pas l'impression évidemment qu'il y a du CO2, mais il y en a effectivement pour le produire, pour l'amener, pour que, et après, recycler tous les déchets qui auront été produits. Donc ce que je vous mets, c'est à travers ces trois grands postes de consommation, vous montrer un petit peu effectivement où on en est, comment on peut effectivement réduire de façon importante les émissions dans chacun de ces domaines à travers des gestes quotidiens au lieu de vie. Et même si on n'a pas toutes les cartes entre nos mains, nos bâtiments, si on est locataire, le bâtiment a été construit, on n'est pas responsable, on a des voitures qui nous proposent, on peut aussi choisir des fois les transports en main, mais pas partout. Et puis les produits, c'est ce qu'on trouve dans les rues. Néanmoins, alors premier secteur, le bâtiment, qui est le secteur le plus consommateur d'énergie. 44% de l'énergie imposable et qui est également un poste important, 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. Alors, encore une fois, 20% parce que les autres secteurs, c'est moins important que la consommation totale d'énergie et parce qu'il y a aussi beaucoup d'électricité, mais je reviendrai, dans la consommation d'énergie dans les logements. Alors, actuellement, par rapport à ces consommations, un objectif a été pris par la France, par le gouvernement, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, dont vous avez eu entendu parler, qui a donc été, je crois, un processus très nouveau. Je ne parle pas des décisions qui sont prises, qui sont en cours d'être votées par le Parlement. Mais l'idée a été de se dire, on ne pourra pas prendre des décisions fortes en matière d'environnement si on n'associe pas à la préparation de ces décisions, à la prise de ces décisions, l'ensemble des parties prenantes. Et je crois que l'originalité du Grenelle, tel que j'ai vécu, en tout cas, c'est d'avoir mis ensemble l'administration, c'est elle qui va mettre en œuvre les politiques, les élus nationaux, locaux, les responsables d'entreprise, à travers les fédérations professionnelles, les syndicats qui étaient présents, et ce qu'on appelle les ONG, les associations environnementales qui ont participé au processus. Et au terme de l'ensemble de processus de Grenelle de l'environnement, fin 2007, des décisions assez ambitieuses ont été prises à travers et sur lesquelles se sont mis d'accord l'ensemble de ces participants. Et alors, parmi ces objectifs, en vrai, le changement climatique était certainement l'enjeu le plus important, et le bâtiment constitue la cible prioritaire. L'objectif qui a été pris est de réduire de 40% nos consommations d'énergie dans les bâtiments à l'horizon 2020. Alors ça passe par quoi? Ça passe d'abord par, quand on va construire des bâtiments neufs, faire des bâtiments de plus en plus performants. Vous avez ici, je ne sais pas si vous la connaissez, cette étiquette, elle est obligatoire pour tous les logements et tous les bâtiments d'ailleurs. L'étiquette énergie, vous la connaissez sans doute sur les réfrigérateurs, sur les électroménagers. Elle a été étendue aux bâtiments, maintenant elle est obligatoire dès qu'on vend un appartement ou une maison. On change de locataire et d'occupant. Il faut produire cette énergie et elle indique si le logement il est très énergivore ou au contraire s'il est très performant. Alors la moyenne de nos logements actuellement, vous voyez, c'est pas très bon. C'est actuellement le parc qui existe. La réglementation actuelle, ça veut dire que si on construit une nouvelle maison, c'est ce niveau-là, ça veut dire que c'est en gros 100 kWh de consommation d'énergie par mètre carré. En 2012, ce sera B. Ça veut dire 50 kWh. C'est par deux dans 3 ans. Des gens ambitieux. Et en 2020, ce sera des bâtiments énergie positive, c'est-à-dire le A au-dessus du A, même. Ce sera des bâtiments qui seront très très performants, mais et qui auront des énergies renouvelables pour compenser les faibles consommations qu'on aura. On reviendra dessus. Mais le problème, c'est que les bâtiments neufs, c'est 1% du parc chaque année. Le gros enjeu, c'est la réhabilitation, c'est faire des travaux sur les bâtiments existants. Et ça, il faut bien voir que deux tiers des bâtiments qui existeront en 2050 sont d'ores et déjà construits maintenant. Donc il faut réhabiliter ces bâtiments parce que beaucoup sont des passoires énergétiques. Et donc faire des travaux serait bien. Alors, avec le développement des technologies, on va avoir des bâtiments à énergie positive, comme je l'évoquais, avec l'intégration des énergies renouvelables. Donc l'objectif de ces bâtiments, et on sait les faire, on sait déjà, c'est des bâtiments qui vont être très peu consommateurs, parce qu'ils sont très bien isolés, une surisolation de l'enveloppe, une étanchéité à l'air, des fenêtres très performantes, avec une ventilation pour avoir une qualité de l'air intérieur, des récupérations de chaleur, peu ou même pas de chauffage sur des bâtiments à énergie positive. L'activité des occupants est souvent suffisante pour produire les calories dont on a besoin. Et puis, en complément, puisqu'il peut y avoir quand même une certaine consommation, on va avoir des énergies renouvelables qui vont être intégrées au bâtiment et qui vont compenser finalement les faibles consommations qu'on aura. Et si on va devenir des producteurs d'énergie avec l'enveloppage de nos bâtiments qui sera positif. Ça, je parle évidemment pour les bâtiments neufs, c'est plus difficile à faire dans les bâtiments existants. Mais ce n'est pas pour 2050. La photo à droite en bas, c'est la tour Elitis. C'est une tour qui a été inaugurée en avril 2009, qui est une tour énergie positive, c'est-à-dire qu'elle produit plus d'énergie, elle est photovoltaïque, elle a des capteurs solaires qui produisent plus d'énergie qu'elle en consomme. Et elle a été réalisée sans surcoût par rapport à un bâtiment classique. C'est une tour de bureau qui fait à peu près 8 étages. Très grand bâtiment, mais ça montre que ça existe dans ces déjà. Alors là, c'est sans surcoût. C'est vrai qu'actuellement, il y a encore des surcoûts, mais ils vont diminuer. Et encore une fois, en 2020, ce sera Nord, c'est-à-dire que ce sera nos bâtiments en 2020. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des bâtiments à énergie positive? Ça veut dire qu'on va devenir des producteurs d'énergie. Ça vous paraît sans doute un peu difficile à comprendre. Là, c'est une vue de quelque chose qui existe déjà. C'est la Toyota City au Japon. C'est une petite ville, et dans cette ville, il y a 543 maisons qui sont équipées de générateurs photovoltaïques sur les toits et qui produisent de l'énergie qui est envoyée sur le réseau. Alors, ça existe déjà en France. Certains ont peut-être déjà investi sur du photovoltaïque sur les toits, de vos maisons pour produire de l'énergie et la revendre au réseau, à l'EDF qui fait le cours, avec des tarifs qui sont très intéressants puisque c'est des tarifs actuels pour inciter à vendre cette énergie. Mais actuellement, tous ceux qui sont équipés revendent cette énergie et ne se préoccupent pas de la gérer. À l'avenir, on aura à gérer cette énergie parce qu'on va être dans des situations où on sera producteur. On aura de l'énergie offerte par le réseau qui sera peut-être plus chère, peut-être moins chère que celle qu'on aura produite. Donc on aura à choisir si on va la stocker chez nous. On aura des batteries. Éventuellement, ce sera des batteries qui sont dans un véhicule électrique. Donc on verra, je vais recharger mon véhicule. Au contraire, actuellement, il y a un déficit d'énergie sur le réseau. On va me la racheter très cher parce que le prix va varier dans la journée, va varier dans l'année. Donc on aura géré. Alors ça ne veut pas dire que ça va nous prendre la tête forcément. On aura des technologies, des logiciels qui vont nous aider. Mais voilà, on aura ce choix. Et donc, en fonction de ce qu'on va décider maintenant, cette gestion pourra ressembler à une espèce de jungle, de loi du marché, ou alors au contraire, avec une certaine régulation, ça fait partie des choses sur lesquelles on réfléchit. Donc c'est à travers ces réseaux électriques du futur intelligent, puisque jusqu'à présent, il faut bien voir que ces réseaux qui nous amènent l'énergie, qui nous amènent le gaz, qui nous amènent l'eau, on a toujours cette vision, on a des centrales électriques, des grosses centrales qui produisent, et puis on les distribue, et puis on les consomme chez nous. Les consommateurs. Donc ça, c'était la vision du réseau jusqu'à très très récemment. Des grosses centrales et puis du consommateur, du petit consommateur. Et tout ça est en train de changer. Et ça pose des problèmes énormes auxquels les gestionnaires de réseau, responsables, RTE, EDF, et tous ces acteurs sont confrontés. Comment on va faire quand on va avoir des milliers, des millions de producteurs individuels d'électricité et qu'il va falloir absorber quand ils ont fourni leur énergie, la gérer et la redistribuer. Donc on est là face à où on voit bien que nos modes de vie vont évoluer parce qu'encore une fois, on ne sera pas seulement un consommateur avec un grand producteur et puis nous, seulement à subir effectivement le tarif qui est annoncé, on aura à gérer et à décider dans notre futur. Alors, tout ça est très bien, vous voyez qu'on a beaucoup de gains à faire de gagner beaucoup de choses sur les bâtiments dont on consomme moins. Mais néanmoins, quand on regarde au niveau mondial, la consommation d'électricité, vous voyez qu'on consomme, je dis, dans la maison pour se chauffer, c'est la moitié du gros poste. Mais si le poste qui est en train de devenir le plus important, c'est la consommation d'électricité. Alors je ne parle pas pour chauffage, mais pour ce qu'on appelle l'électricité spécifique. Tous ces appareils électroménagers qui nous entourent et qui consomment de plus en plus. Alors ici, je crois que c'est assez impressionnant, ces chiffres sont assez récents. Vous avez ici l'évolution des consommations d'électricité spécifiques. En moyenne, chez un ménage en France, entre 1997 et 2007. En 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous avez ici des costes de consommation 97 qui est très important. Le vert, c'est le froid, c'est-à-dire les réfrigérateurs et les congélateurs. Vous voyez comme ça diminue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette étiquette d'énergie. Il y a eu des progrès techniques faits et les réfrigérateurs et les congélateurs ont énormément baissé leur consommation. Ça, c'est les consommations du parc, ce n'est pas les meilleurs appareils. Donc on a eu des gains énormes. On a eu des gains également sur les lavages, qui ont également décru, sur l'éclairage, l'eau, et de plus en plus dans l'économie d'énergie, mais en fait, au total, on est au même niveau. Et qu'est-ce qui augmente? C'est l'audiovisuel et l'informatique. Et dans des proportions qui sont énormes. Oui, maintenant, ça représente d'ores et déjà 30% de la consommation d'électricité. 30% à la maison. Sans compter les consommations d'énergie des serveurs informatiques, qui sont les postes qui consomment énormément parce qu'ils sont climatisés, c'est ça, pour qu'elles puissent fonctionner. Donc, on est face à des consommations très diffuses dans ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication. Et c'est en croissance forte en France et dans le monde entier. Donc là, et ces produits changent très vite. Donc l'histoire des étiquettes est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre parce que dès qu'on a mis la construit l'étiquette, il y en a un nouveau qui arrive dans le marché. Les téléviseurs, par exemple, nos téléviseurs, leur consommation a été multipliée par plus de 2 en 5. Pourquoi? Parce qu'on est passé de technologies cathodiques qui ne sont pas très performantes, avec des écrans plasma qui consomment beaucoup plus et plus de téléviseurs. Donc on est avec une croissance de 2,2 sur les téléviseurs. Et puis toujours dans cette affaire d'appareils électriques et électroniques, alors excusez-moi, vous ne verrez peut-être pas les détails, mais en haut, c'est la consommation individuelle des différents, ce qu'on appelle les périphériques audiovisuels, les décodeurs, les magnétoscopes, les lecteurs de DVD, etc. Leur consommation individuelle. Et vous voyez, ça se multiplie, il y en a plus en plus. Et puis la partie rouge, c'est ce qu'ils consomment quand ils sont en marche. Et la partie verte, c'est ce qu'ils consomment quand ils ne marchent pas, en moyenne elle-même. Donc vous voyez que pour certains d'entre eux, la partie verte n'est pas du tout négligeable. C'est ce qu'on appelle la consommation en veille. Et on voit des appareils qui restent, des décodeurs, qui restent branchés. Ça ne sert pas vraiment, mais ça consomme de l'énergie. Et en bas, c'est pareil, mais pour l'informatique, où vous avez là aussi les consommations en veille, vous voyez qu'ils ne sont pas du tout négligeables. Au total, rien que les veilles, la consommation en veille, ça représente production de 2 tranches nucléaires pour alimenter ces bâtiments actuellement. Donc là, il y a des progrès à faire, encore une fois, c'est pas facile parce que les constructeurs sont engagés à faire des veilles inférieures à la boîte, mais si on prend des décodeurs, c'est souvent 25 watts. Vous le mettez un peu chez vous, vous avez certainement des appareils, les recharges de téléphone, etc. Alors je passe au transport, qui est le deuxième poste, au poste émetteurs de CO2, alors à travers nos déplacements et évidemment, bien sûr, pour la plus grosse part, nos déplacements routiers en voiture, puisque le train est beaucoup plus efficace, il consomme de l'électricité, qui est faiblement émettrice de CO2, faiblement émettrice en France de CO2, l'électricité, donc par rapport à ce que je vous montrais avant, je fais ce petit rappel quand même sur l'électricité. 80% de l'électricité française est faite à partir de nucléaire qui n'émet pas de CO2. Au moins pour certaines exploitations, franchement, les centrales n'émettent pas de CO2. Mais 80% de nucléaire, 15% d'hydraulique. Donc vous voyez, la France a une électricité très peu carbonée. Néanmoins, pour certains usages de l'électricité, c'est ce qui reste, 50%, qui fait appel à des centrales à charbon et à des émettent de CO2. C'est pour ça que le contenu de l'électricité n'est pas le même pour l'éclairage et pour le chauffage et pour le froid. Pour le froid, il est très très faible parce qu'on utilise le nucléaire à la contente, on fait appel à l'éclairage, c'est en fin de journée, c'est au moment où il y a ce qu'on appelle le point, c'est là qu'on est obligé de prendre marche, les centrales à charbon, pour l'importer du courant de l'Allemagne, il y a une centrale à charbon. Donc l'électricité est faiblement carbonée, mais attention, pas beaucoup de usages. Alors je reviens au transport, vous avez ici l'évolution des consommations d'énergie et des émissions de CO2, parce que c'est la même. Les consommations d'énergie pour les transports, c'est essentiellement la route, c'est essentiellement la pétrole. Vous avez cette évolution en indice depuis 1990, vous voyez une augmentation continue, et puis à partir de la décennie, une relative stagnation due à des prix qui se sont envolés, à des prix du pétrole, et puis une certaine saturation dans le déplacement. Et vous voyez que la route, c'est la partie rose, a suivi cette consommation, donc elle est là. Alors, qu'est-ce qui détermine ces consommations d'énergie? Qu'est-ce qui détermine nos déplacements? C'est d'abord ce qu'on appelle les formes urbaines. Vous avez sur ce graphique, un graphique assez connu chez les économistes, vous avez ici, sur l'abscisse, l'axe horizontal, la densité des villes. Combien d'habitants au kilomètre carré dans des agglomérations dans le monde? Avec à droite un pont qui est très très dense, avec très peu d'espace. Et puis vous avez dans l'axe vertical les consommations d'énergie pour les transports. Vous voyez que vous avez ici Hong Kong et vous avez ici Houston au Texas. Donc deux villes complètement opposées dans la forme urbaine, des villes très concentrées, avec évidemment beaucoup de déplacements. Et puis ici toutes les villes américaines, les villes consommatrices. Ici les villes australiennes, l'Europe, ici, et puis quelques villes d'Amérique. Donc, quand on regarde l'impact que ça a déjà au sein des villes européennes, suivant la forme urbaine, on a des facteurs de 1 à 2 de consommation d'énergie par habitant. Quand on passe aux villes américaines, le ratio entre une moyenne des villes européennes et des villes américaines, on passe de 1 à 5. Donc, vous voyez l'impact que ça a, parce qu'évidemment, une ville qui est très peu dense, on ne va pas pouvoir mettre des transports en commun partout, donc on va avoir que des véhicules individuels, beaucoup de déplacements, et donc alors tout ça avec les véhicules, est-ce qu'on peut améliorer nos véhicules? Quels seront les véhicules de demain? On a, dans le bâtiment, on sait ce qu'il faut faire. On sait faire des bâtiments énergie positive. On sait même des fois les faire, comme je l'ai évoqué sur la pluralité, ça a nul. Dans d'autres cas, ça va coûter. C'est vrai que ça a coûté, ça va coûter un petit peu. Mais sur les véhicules, on ne sait pas encore quel va être le véhicule en 2020, 2030, 2050. On a des options. Alors ces options, vous les connaissez, vous en avez entendu parler, il y a véhicules tout électriques, moteurs thermiques, on se branche. Actuellement, les autonomies sont relativement faibles pour les problèmes de batterie. On sait qu'on pourra faire mieux, mais est-ce que ce sera le modèle qui va s'imposer? En fait, pour les constructeurs automobiles, ça a été le même véhicule, pour un siècle, ça a été un véhicule d'amélioration sur le diesel, c'était le même véhicule pour proposer à tout le monde, pas en chemin, c'était toujours, mais c'était le même véhicule. Il y a des options hybrides rechargeables, alors l'hybride, entre la notion qu'on a parlé, c'est qu'il y a deux motorisations, une moteur thermique et un moteur électrique. Alors là, évidemment, ça permet de s'affranchir de l'autonomie de la batterie, on peut rouler avec les deux, et puis rechargeable, actuellement, les véhicules, notamment d'un constructeur japonais qui sont proposés, on va l'appeler, n'est pas rechargeable, c'est un moteur thermique qui la recharge. C'est pas idéal, mais vont sortir très bientôt des véhicules hybrides rechargeables. Et puis encore des options autres qui est les véhicules à hydrogène. Alors là, ce qu'on aurait dit, l'hydrogène, ça ne produit pas de CO2, quand on la brûle, dans des moteurs ou dans des piles à combustible, pour mettre de l'électricité. Mais le problème, c'est comment on produit l'hydrogène. Le problème sur les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, c'est comment on va produire cette électricité. Si elle est produite à partir de nucléaire, ça ne fait pas de CO2, ça fait des déchets, des problèmes. Si on la produit à partir de combustibles fossiles, on va émettre du CO2 et pour le problème, c'est pareil. Savoir comment. Donc, ces options sont actuellement sur la table. Il y a des recherches parce qu'on peut gagner sur les véhicules électriques, on peut gagner encore. Et peut-être qu'on arrivera aussi sur l'hydrogène, mais on n'a pas encore de certitude de ce que sont ces véhicules. Ah oui, je vais en rajouter. Un objet technologique actuellement que l'ADEME soutient au niveau de la recherche et des consommateurs pour vous montrer un petit peu ce qui se passe actuellement chez les constructeurs automobiles, ça c'est Michelin qui a mis au point cette roue, ce moteur roue. Alors une roue normale au niveau de sa taille, mais à l'intérieur, il y a un moteur électrique pour la traction. Alors il y aura deux roues, quatre roues, un moteur pour la suspension. Et ce qui est en train d'intégrer, ça c'était présenté au Mondial de l'automobile à l'automne dernier, donc plus de moteur en dehors des roues. Et il y aura, dans ces recherches actuelles, c'est d'introduire aussi le freinage. Ce ne sera plus une mâchoire qui viendra pincer un disque avec des frottements que ça induit. Ce sera le moteur électrique qui va récupérer l'énergie du freinage, donc plus aucun frottement, et la direction. Donc on aura plus, on aura une voiture avec toutes les fonctions dans les roues, un joystick au-dessus du châssis. Le châssis, ce sera les batteries qui feront le plus au châssis. Donc vous voyez, il y a quand même des idées. Alors je me dis, comment est-ce qu'on conduira ces véhicules électriques, hybrides, comment est-ce que, quand les évolutions de mode de vie, un véhicule hybride rechargeable, ils vont être testés à Strasbourg à partir de la fin de l'année, avec des Prius plus évolués qui sont rechargeables, on aura 40 km d'autonomie, rien sur la partie électrique. Comment on va gérer dans la journée vos déplacements, à quel moment charger ou changer les batteries. Et puis, est venu dans l'idée de certaines personnes, finalement, la moitié de nos déplacements, plutôt la moitié de nos consommations d'énergie sont faites en ville, dans les trajets, même s'ils travaillent, pour les faire des courses. C'est là que la moitié de nos émissions. Et c'est des trajets qui sont sur des distances relativement longues. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu, à part peut-être la Smart, de véhicules spécifiquement urbains. Tous les constructeurs automobiles disaient il n'y a pas de marché parce que personne ne va acheter un véhicule qui ne pourra avoir qu'une faible autonomie, qui pourra circuler en ville, donc pour faire des voitures qui servent à tout. Les réflexions actuelles conduisent les constructeurs à se poser vraiment la question, après tout, en ville, est-ce qu'on a besoin d'un véhicule qui pèse 2 tonnes, est-ce qu'on a besoin d'un véhicule qui a une autonomie de 400 ou 500 km, est-ce qu'on a besoin qui résistent au choc, enfin, qui ont des crash tests à 500 km/h. Donc tout ça conduit à réfléchir à des véhicules qui seraient de plus petite taille, beaucoup plus légers pour les consommateurs d'énergie, qui pourraient finalement les mettre soit en thermique, soit en électrique, 20 grammes de CO2. Je sais que ce chiffre, parce qu'actuellement c'est 170 dans la moyenne du parc, la Smart c'est autour de 90, comme vous voyez, Michel. Et puis tous ces véhicules, ils seront peut-être à 4 roues, mais aussi 3 roues, 2 roues. Il y a des options technologiques qui sont sur la table et on peut dire que depuis 2 ans, en France, ça bouge beaucoup sur ces nouveaux routes. Ici, on voit que vous avez un projet d'un véhicule 4 roues qui s'incline, qui est très étroit, donc il faut qu'il s'incline dans les virages, mais c'est un véhicule non pas. Mais bon, il faut le produire, il faut le produire. Donc c'est un projet qu'on soutient depuis quelques. Alors, il y a à droite, c'est un véhicule japonais individuel pour la ville. Mais ces véhicules, nous trouverons de marché, pense-t-on, qu'à travers les services. Les services de mobilité qui seront proposés, ça veut dire qu'on ne sera pas forcément propriétaire à l'intérieur de ce véhicule. Évidemment, derrière ça, on pense aux véhicules en libre-service, comme les vélos, comme il va y avoir des voitures bientôt, mais ça peut être aussi des associations où on partage le véhicule, ça se fait déjà. Il y a d'autres services. Alors là, ce qui est très difficile, c'est de voir quelles vont être ces innovations. Mais ce qu'on voit, c'est que sur ces projets que nous développons, les grandes sociétés qui travaillent sur l'informatique et les télécommunications sont très intéressées parce que ça fait partie du nouveau service. La question qu'on se pose, c'est finalement qui va offrir ces services demain. Est-ce que ça va être les constructeurs automobiles ou est-ce que ça va être d'autres sociétés? Alors, comme dernier volet de ma présentation, je vous ai parlé de la façon dont on allait évoluer vos maisons, elles pouvaient évoluer, la façon dont on va pouvoir devenir consommateur d'énergie, la façon dont on la mobilité en ville, en tout cas, va évoluer, parce que finalement, la question aussi de la mobilité, ça traverse un petit service de mobilité urbaine et aussi interurbaine, vous allez dire, mais là aussi, on peut avoir des gens maintenant commencent à louer une voiture pour leur vacances, ils ne souhaitent pas payer la voiture toute l'année s'ils font pas un service. Donc on voit qu'il y a beaucoup de services qui vont se développer. Le dernier volet que je voulais aborder est celui du consommateur. Pas consommateur d'énergie à la maison, consommateur d'énergie dans la voiture, mais à travers ce que j'évoquais, le panier du ménage, le caddie, on a une consommation quotidienne de biens et de services qui incorpore du CO2 et du carbone. À travers travers tous les procédés industriels des entreprises, à travers la logistique qui est par rapport des produits que nous consommons et qui viennent de plus en plus de tous les points du monde pour partie et qui donc, à travers les transports d'avions en bateau, émettent du CO2 et qui arrivent sur les étalages des commerces ou des affaires de production. On a quand même un certain choix sur les produits. C'est quand on achète des fraises au mois de décembre, soit elles viennent du monde, soit elles ont été produites sur serre et elles n'ont plus des consommations d'énergie, des émissions de CO2. Donc c'est un exemple à court pour connaître effectivement quand même qu'on a un choix. Sur les emballages, on voit bien qu'il y a des produits qui sont plus ou moins avec du emballage. Donc il faut d'abord être informé, conscient de l'impact de son mode de vie. Je pense que c'est d'abord s'intéresser, c'est une première démarche. Ensuite, qu'est-ce qu'on appelle des gestes citoyens? Alors, citoyens, parce qu'au-delà de l'impact environnemental, c'est parce qu'on vit en collectivité. Il y a des organisations qui proposent de tri des déchets, des co-conduits, des achats responsables. Et puis, au-delà de ça, je crois qu'il y a une certaine façon de penser sur le bien-être, sa consommation. Et puis, c'est de regarder comment, au-delà de ces gestes quotidiens, on peut orienter ses choix de vie. Alors, par exemple, privilégier les circuits courts. Je crois que ça fait partie des signaux faibles, ce qu'on appelle les signaux faibles. Il y a de plus en plus, ça s'appelle les AMAP, d'autres associations de producteurs qui viennent vendre leurs produits ou des municipalités ou des groupes d'individus qui s'organisent entre eux pour plutôt consommer ce qui vient de pas très loin. Dans certains pays anglo-saxons, d'ailleurs, je crois que ça s'appelle, je ne sais plus le nom, en gros, c'est un bloc maïs. Pas ce qui va, c'est un peu radical, mais essayer de privilégier. Donc il y a une différence entre privilégier ce qui vient de près et puis se dire bah, je fixe une limite dont je ne dérangerai pas. Des matériaux locaux renouvelables, c'est vrai que ça va avoir un moindre impact. Alors qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc je l'évoquais, il faut être informé, les étiquettes sur les bâtiments, sur la gauche, vous voyez, ça aide à savoir. Alors c'est vrai qu'actuellement, tout le monde ne le connaît pas, c'est vrai qu'actuellement, faible sur le nombre des ménages, quand ils achètent une maison, on regarde cette étiquette. Et pourtant, elle est importante, pas seulement pour l'environnement, mais pour leur porte-monnaie, parce qu'une maison qui va être en catégorie D, E ou F, ça va être un coût financier pour le chauffage. Et comme l'énergie, enfin, les prix d'énergie ne vont pas décroître, c'est quelque chose qui est important. Ça suppose un certain calcul qui n'est pas immédiat. Cette étiquette, elle existe aussi sur la partie droite sur les véhicules. Maintenant, systématiquement, tous les véhicules qui sont proposés à la vente doivent avoir cette étiquette, les véhicules même doivent avoir cette étiquette. Et puis, donc, au-delà de ces étiquettes sur les bâtiments, il y a des instruments qui ont été mis en place à la suite justement du modèle de l'environnement, un crédit d'impôt pour investir. Un prêt à taux zéro, ça c'est tout récent, ça date de début avril. C'est si vous voulez faire des travaux dans votre maison, il y a des prêts à taux zéro à partir du moment où vous faites ce qu'on appelle un bouquet de travaux. Ça veut dire zéro intérêt sur 10 ou 15 ans pour des montants qui sont de l'ordre de 20, peuvent atteindre 20 ou 30 000 euros. Sur les véhicules, d'autres instruments ont été mis en place, notamment un bonus malus. Vous avez acheté un véhicule, vous avez dû vous en rendre compte, c'est-à-dire que les véhicules très peu consommateurs d'énergie, très peu émetteurs, ont une prime qui peut atteindre 2000 euros pour les plus économes. Et puis au-delà d'un certain niveau d'émission pour le véhicule, il y avait un bonus, c'est-à-dire en gros une taxe. Et puis l'ensemble est supposé s'équilibrer. Ça a tellement bien marché, ça a été déséquilibré, l'État a payé à peu près 80 000 euros en 2008. Ça prouve que ça marche. Et puis sur les produits, on a actuellement des produits comme ces labels et l'aide pour l'environnement qui sont posés sur les produits les plus respectueux de l'environnement. Et ça concerne à peu près 20% en général. Dans une gamme de produits, ceux qui ont ce label, c'est 20%. Tous les autres, c'est vraiment pour montrer les meilleurs. Alors ce qui a été décidé dans le cadre du modèle de l'environnement, c'est à l'horizon 2012 d'afficher le coût environnemental des produits de consommation, tous les produits de consommation qui doivent être réalisés d'ici 2020. Alors, c'est une entreprise gigantesque, C'est-à-dire que tout ce qu'on va acheter dans le supermarché aura une étiquette qui indiquera quel est le coût environnemental, notamment du carbone. Est-ce qu'on a l'impact sur la biodiversité, etc. Et en fait, vous voyez ici qu'il y a des grands distributeurs qui ont déjà anticipé, puisque vous avez ici des exemples d'étiquettes qui, au moment où vous passez à la caisse, par exemple, vous dites quel est le contenu carbone de l'ensemble de votre caddie et qu'est-ce que ça représente. Alors, évidemment, actuellement, ce n'est pas très visible, c'est de l'information pure. On peut penser à terme quand même qu'au-delà de l'information, ça permettrait, si carbone a une valeur dans une société, puisqu'il commence à en avoir, une valeur à travers, si on va arriver à des permis d'émission, etc., on peut penser qu'on peut, comme les économistes disent, réintégrer, réinternaliser les externalités environnementales sur le prix des produits. Et effectivement, après, avoir des produits dont le coût prend en compte l'impact sur l'environnement, ce qui est quelque chose qui est envisageable. Alors, c'est envisageable si on peut faire ce calcul, y compris quand ça vient de l'étranger, et si on peut avoir une certaine transition aux frontières par rapport à notre entreprise nationale. C'est un enjeu important. Il devrait y avoir bientôt, qui a été annoncé, une conférence de consensus d'experts sur ce projet. Alors, pour terminer, pour montrer que finalement, est-ce que
Thank you. demain soir, d'ailleurs, il y aura une vidéo conférence sur, cette fois-ci, la consommation durable, qui sera faite par Jean Roger et délégué par Brice Sénès, de Cap Science, donc une institution bordelaise et aquitaine. Alors, ce que je vous propose, peut-être, parce que c'est toujours la même chose qui est difficile, c'est toujours la première question.